Histoire de peinture. Aujourd'hui, la thèse volée.
En fait, l'Italie, c'est mon deuxième pays. C'est mon premier pays est la France, et j'adore la France, mais le deuxième pays, celui auquel, dans lequel j'aimerais aussi vivre, et où j'ai pas mal vécu, c'est l'Italie. Alors, pourquoi? Parce que j'aime aussi beaucoup les Flandres, il y a pas là la Hollande, j'aime beaucoup l'Angleterre, j'aime beaucoup l'Allemagne, etc. Mais l'Italie, là, je crois qu'il y a eu vraiment un coup de cœur à mon premier voyage. Bon, j'étais, je sais pas, je vais avoir 13 ans, 14 ans. Je me rappelle, c'est en 58, donc j'avais 13 ans et demi exactement. Et on est allé passer 10 jours à Rome avec mes parents. Et là, j'ai vraiment eu, je crois, un coup de cœur. C'est après coup, je m'en suis rendu compte. À la fois coup de cœur à cause du forum, des ruines romaines. Il se trouve que j'aimais le latin. Hein, à 13 ans et demi, je l'aime toujours à mon âge, hein, et tout d'un coup de voir les lieux, les rostres sur le forum, hein, là où avait parlé Marc-Antoine après l'assassinat de César, de voir la curie où César avait été assassiné, ce que j'avais du mal à comprendre en texte latin, devenait, d'un coup, il y avait le lieu. Bon, il y a eu ça, il y a eu ces ruines romaines Ostie, hein, les mosaïques d'Ostie, j'en rappelle très bien tout ça, j'avais 13 ans et demi. Et l'autre choc, je crois, ça a été les peintures, alors pas du tout romaines évidemment, mais les peintures de la Renaissance, et en particulier Raphaël. J'avais 14 ans et j'ai eu un coup de cœur pour Raphaël. Alors maintenant, je dirais bien longtemps après, parce que petit garçon ou jeune adolescent, d'abord c'était beau, tout simplement c'était beau, et puis, je veux dire, grâce à mes parents, aux explications, aux commentaires qu'ils faisaient des fresques, c'était intelligent, c'est là que j'ai compris qu'une image, ça pouvait penser, hein, parce que moi je voyais ça, j'étais admiratif, et les commentaires des parents faisaient, je me rendais compte, ah mais en plus, non seulement ça raconte une histoire, mais ça la pense cette histoire, et je crois que ça a été là décisif à 13 ans et demi, si bien que quelques années plus tard, en fait 8 ans plus tard, eh bien j'ai fait une maîtrise en histoire de l'art, et j'avais choisi bien sûr l'Italie, parce que je voulais pas continuer vraiment à faire du latin toute ma vie, et par contre l'Italie, ça oui, je voulais y revenir, et à ce moment le meilleur moyen de revenir en Italie, à part le latin, les étrusques, on mettra, c'était l'histoire de l'art italien, et alors ça a été mon premier voyage, seul en Italie, seul pendant une quinzaine de jours, et il se trouve que, par hasard, la chronologie fait ça, eh bien je suis arrivé à Florence au début du mois de décembre 1966. C'est-à-dire, alors les auditeurs, peut-être, ou les auditrices, ne pas y penser immédiatement, mais en fait, c'était quelques semaines après la grande inondation de novembre 66, où Florence avait été absolument dévastée par une crue terrible de l'Arno, enfin, qui est un événement, une des crues historiques vraiment catastrophiques de l'Arno. Et moi, j'étais là, à Florence, 3 semaines après. Eh bien, je dois dire, je confesse aujourd'hui, à ma grande honte, que je ne me suis pas du tout rendu compte de l'importance de cette catastrophe. J'ai trouvé que c'était étrange. Je me rappelle très bien, j'ai fait un film. Hein, j'avais une petite caméra de 8 mm, et j'ai fait un film sur Florence après l'inondation, mais pas du tout un film, comment dire, d'un historien de l'art catastrophé. Non, un film de quelqu'un qui vient et qui a de la chance. C'est scandaleux de le dire. Je me rends compte, mais c'était mon ignorance. Je n'avais jamais fait d'histoire de l'art. Moi, j'avais une formation littéraire, le latin, le français, le grec, etc. Mais je n'avais jamais fait d'histoire de l'art. Donc Florence, c'était une découverte, et puis je découvrais cette ville avec les traces de mazout jusqu'à 2 mètres d'eau, etc. J'ai trouvé que cinématographiquement, c'était très photogénique. C'était magnifique. Bon, et donc j'ai un souvenir aujourd'hui à la fois étonné et un peu honteux, hein, d'être passé à Florence 3 semaines après la grande catastrophe et de ne pas avoir eu à ce moment-là la réaction en fond de l'historien de l'art, mais que je n'étais pas encore, que je commençais à peine à devenir. Et en fait, si j'y réfléchis, je peux dire en histoire de l'art, j'étais autodidacte. Parce que j'ai pas eu de formation d'histoire de l'art, j'ai une formation, encore une fois, littéraire, historique, enfin, où il y a cette structure, en général, où on faisait à la fois de la philo, du latin, du grec, de l'histoire, du français, c'est pas mal comme formation générale, mais on faisait pas d'histoire de l'art, ce qui est d'ailleurs un scandale, entre parenthèses, hein, l'absence d'enseignement de l'histoire de l'art dans les écoles du lycée français demeure encore aujourd'hui absolument un scandale, ça va être une discipline presque obligatoire. Bon. Et donc, j'étais en fait autodidacte, je ne savais rien en histoire de l'art, et je descendais là, avec un sujet de maîtrise. Ce sujet de maîtrise, c'était sur Masolino da Panicale. Alors Masolino da Panicale, plus personne aujourd'hui ne peut imaginer ce que c'est, enfin, plus personne. Il faut être un spécialiste pour savoir. Masolino était le compagnon plus âgé de Masaccio. Hein, et Masolino, à côté d'un génie comme Masaccio, Masolino semblait et semble encore aujourd'hui un peu faible, on va dire, l'homme fort, on va dire, de ce couple, était évidemment Masaccio. Mais il se trouve que c'est Masolino qui m'intéressait, et là, à cause d'un auteur, le seul que j'avais lu pratiquement à ce moment-là, et qui n'était pas André Chassel, mais qui était Pierre Francastel. Hein, c'est Francastel qui m'a inspiré au départ, et son livre, que je trouve toujours magnifique, Peinture et Société, qui datait justement, de 65. Donc un an, c'était l'actualité, à ce moment de la réflexion, en fait, neuve sur l'art, et je me suis passionné pour Masolino, et c'est pour ça que j'étais à Florence, pour Masolino, pour la chapelle Brancacci au Carmine de Florence, qui est partagée entre l'intervention de Masaccio et de Masolino. Et alors, ce qui me frappe aussi maintenant, c'est qu'en fait, dans le fond, pourquoi avoir choisi Masolino et non pas Masaccio? Pourquoi avoir choisi celui qui était en fond le secondaire par rapport au grand Masaccio? Bien, je crois, et c'est peut-être là quelque chose qui continue à m'intéresser et sur laquelle je serai amené à revenir, à rebondir d'une manière ou d'une autre, c'est que la voie royale de l'histoire de l'art, hein, les grands, les génies, etc., c'est passionnant. Bien sûr, il y a de très grands artistes, et il y en a qui sont moins grands. Il y en a qui font bouger l'histoire, il y en a qui la répètent, il y en a qui ne font pas bouger, il y en a qui prennent des chemins de traverse, etc. C'est extrêmement varié, maintenant j'en ai conscience. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment d'une injustice. C'est-à-dire, je trouvais injuste que Roberto Longhi, qui demeure aujourd'hui, comment dire, un historien pour lequel, italien bien sûr, pour lequel j'ai une très grande admiration pour le travail qu'il a fait, mais dont je déteste le mode d'approche des œuvres et surtout l'arrogance, hein, consistant à dire que, par exemple, Masolino ne comprenait rien à Masaccio. Et je trouvais que Francastel était beaucoup plus mesuré et plus juste. C'est-à-dire qu'en fait, Masaccio est un génie, il vient contredire la situation, il attaque, il change, et là, il travaille avec l'équipe Brunelleschi, Donatello, donc les très grands, mais il faut des passeurs. Il faut des passeurs pour qu'une société puisse admettre à cette époque-là surtout, des artistes vraiment révolutionnaires, des peintres surtout vraiment révolutionnaires. Et le passeur, c'était Masolino. C'est Masolino qu'on appelait sur un chantier, et c'est Masolino qui appelait Masaccio. Ça s'est passé à Florence, ça s'est passé à Rome. Je pense que, dès ce moment-là, il y avait une attirance vers ce qui est un peu, non pas le chemin de traverse, mais un peu à l'écart, un peu, etc., de la voie royale de l'histoire de l'art. Et donc, ce premier voyage a été consacré à Masolino, près de 1000 ans, Castiglione-Olona, le magnifique baptistère de Castiglione-Olona. Et quand vous avez 22 ans, et que vous arrivez en Italie par le nord, hein, et que vous découvrez le baptistère de Castiglione-Olona, ben je crois que vous ne vous en remettez pas, tout simplement, vous avez inoculé un virus italien. Et puis, j'ai donc fait un maîtrise sur Masolino, et puis, ça s'est poursuivi, curieusement, hein, ce goût de l'Italie, par Saint-Bernardin de Sienne, Saint-Bernardino da Sienne. Et alors ça, je me suis demandé, en réfléchissant justement, mais pourquoi ce chemin, pourquoi Saint-Bernardin? J'ai appris après que Saint-Bernardin avait été nommé par Jean XXIII Saint-Patron de la publicité. Mais je ne pense pas que beaucoup de publicitaires le sachent, et c'est dommage, parce qu'ils s'intéresseraient davantage à Saint-Bernardin. Alors pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ce saint franciscain, prédicateur, édenté, hein, à la fin de sa vie, quand il prêchait encore devant 3000 personnes à Sienne, Saint-Bernardin n'avait plus qu'une dent, qu'on a arrachée à son cadavre, puisque c'était une relique magnifique, et qui a été récupérée par le duc de Milan. Bien, mais il n'avait plus qu'une seule dent, il rassemblait 3000 personnes sans micro sur la place de Sienne. Bon, je l'ai appris progressivement, mais comment est-ce que j'ai appris à me passionner pour ce prédicateur franciscain? Eh bien, je crois que c'est parce que c'est passé par le détour du problème de ce qui est écrit dans la peinture. Le fameux livre de Michel Butor, hein, Les mots dans la peinture, très beau livre de Michel Butor, mais je m'étais posé une question que Butor ne se pose pas, c'est à quoi sert d'écrire des mots dans la peinture pour des spectateurs analphabètes? Hein, et c'est vrai, c'est très frappant. Le public majeur des tableaux religieux ou des fresques est un public analphabète, hein, non pas illettré, mais il ne sait pas l'alpha et le bêta, il ne sait pas lire. Et c'est pour ça qu'on dit que la peinture est la Bible, hein, des illettrés, on veut dire des analphabètes, des illettrés. Bien, alors à quoi sert de mettre des écrits en peinture si les gens ne savent pas lire? Bon, et j'avais très vite l'idée tout de suite que c'était pas pour ce que disaient les mots écrits, puisqu'on ne savait pas les lire, mais c'était pour l'image du verbe. Alors en particulier, j'avais remarqué dans la peinture siennoise, Oui, parce que pourquoi s'abandonner de Sienne? À cause de Sienne, évidemment. Sienne qui est, avec Rome, pour moi, la plus belle ville d'Italie. Et le coup de cœur que j'ai eu pour Sienne, quand j'ai découvert Sienne, donc en 1966, un coup de cœur pour Sienne, pas pour Florence, hein, ça c'est sûr, mais un coup de cœur pour Sienne. Et j'avais remarqué dans les tableaux siennois, énormément de tableaux d'hôtels, donc des polyptiques, ou encore même des tableaux de dévotion, où les saints tiennent un livre ouvert devant leur corps, et ce livre ne contient que des barres verticales. De loin, on croit que c'est écrit, hein, et puis de près, quand on s'approche, comme on fait aujourd'hui dans les musées, on voit que c'est des barres, comme un enfant apprend à faire des barres à l'école. Alors je me dis, tiens, mais peut-être que les peintres étaient analphabètes eux-mêmes, ne savaient pas écrire, et de toute façon, lui ne sachant pas écrire, c'était l'image du verbe qui comptait, et non pas le message même des mots. Dans le fond, l'image du verbe comme image de puissance et de légitimation, la sainteté du représentant du verbe. Bon, et là, c'est une chose qui ça m'a excité comme idée. Bon, j'avais quoi, 23 ans, 24 ans, et à Sienne, dans ce territoire siennois, alors s'il y en avait un qui tenait vraiment dans les mains une image du verbe, c'était Saint Bernardin. Parce que l'attribut essentiel de Saint Bernardin de Sienne, le prédicateur, donc franciscain, c'est cette tablette, hein, sur un petit panneau de bois, on va dire, je sais pas, de 50 cm de haut sur 35 de large, qui montrait à la fin de ses prédications, et qui contenait, je vais pas le décrire en détail, mais essentiellement, ce qu'on appelle le nom de Jésus, c'est-à-dire YHS. Ce qui sera repris par les jésuites, pour devenir IHS, Jesus Hominum Salvator. Mais chez les jésuites, c'est un sigle, comme SNCF. Bon, chez Saint Bernardin, non, c'est le nom de Jésus, et un nom imprononçable. On ne peut pas prononcer RUS. C'est imprononçable, et donc c'est une puissance divine extrême. Et Saint Bernardin utilisait cette tablette, alors, pourquoi, je ne vais pas le raconter, mais il y a toute une histoire de ça, je l'ai apprise progressivement, mais j'étais fasciné de voir dans la peinture ce saint, le plus laid, hein, à part Saint Charles Borromée, il n'y a pas un saint plus laid que Saint Bernardin, hein, bon, mais agréable quand même, hein, bon, il y a quelque chose de doux, hein, et il tient cette tablette avec marqué YHS. Alors, puis, qu'est-ce que c'est que cette affaire? J'ai commencé à chercher, et je veux dire que là, c'est un monde qui s'est ouvert, c'est plusieurs mondes qui sont vraiment ouverts, donc dans les années 67-68, ben, c'est d'abord Sienne. Parce que si on commence à chercher tous les Saint Bernardins représentés, sculptés ou peints à Sienne, bah alors autant dire qu'on peut passer 3 mois à Sienne sans avoir encore tout vu. Le territoire siennois, avec les nuances entre les villages, etc. Bon, tout ça, donc là, une sorte d'intimité de l'Italie tout à fait extraordinaire. Et puis, il y avait aussi le problème de ce qu'on appellerait aujourd'hui, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, le low and le high, hein, c'est-à-dire le grand art et l'art populaire, l'art vulgaire, l'art de base. Bon, Saint Bernardin a inspiré a été représenté par les plus grands artistes, mais aussi par des artistes populaires anonymes dans les petites églises de campagne. Et donc, il y avait une double histoire de l'art à nouveau qui se proposait, celle des grands, hein, alors on va dire Mantegna, Fra Angelico, ils y sont tous, hein, pratiquement tous. Pas Masaccio parce qu'il est mort avant, mais ils sont pratiquement tous. Titien a représenté Saint Bernardin, et donc les très grands, et en même temps les tout petits anonymes dans les églises d'Ombrie, de Toscane, de Vénétie, partout, dans toute l'Italie du centre et du nord, Saint Bernardin est représenté parce qu'il a itinéré, hein, en prêchant à travers toute l'Italie. Donc il y avait une double histoire de l'art qui s'ouvrait, et puis il y avait ce qui s'ouvrait, c'est que l'art n'est pas, il n'y a pas d'art pour l'art, hein, il n'y a pas une histoire séparé de l'art, il y a une histoire, disons, spécifique, hein, singulière de l'art, mais l'art est fort dans la mesure où il est intégré à sa société, où il répond à des besoins, à des demandes, à des attentes, à des espoirs, et que de ce point de vue-là, le cas, on va dire, Saint Bernardin, mêle à la fois la religion, la politique, Saint Bernardin avait un code secret parce qu'il correspondait avec les plus grands, la société, et en particulier la société cultivée, la société populaire. Saint Bernardin a failli être brûlé par le pape, hein, en 1427-28, hein, c'est une de ces deux années-là, parce que ses adversaires dominicains, ça m'ouvrait aussi le problème que l'église romaine et catholique est universelle, mais il y a plusieurs ordres, et en particulier les dominicains et franciscains. Si vous allez à Florence, vous savez qu'à un bout de la ville, il y a les franciscains, et à l'autre, il y a les dominicains. C'est toujours comme ça. Et la zone d'influence dominicains et franciscains, elle est très intéressante. Et donc, de savoir que les franciscains, les augustiniens avaient voulu faire brûler Saint Bernardin, et que Saint Bernardin, non seulement n'avait pas été brûlé, mais avait été encouragé par le pape. Là, il y avait une sorte de secret qui m'obligeait à lire de plus en plus de choses, à entrer, à essayer de me familiariser, comme l'a dit Warburg, avec les voix de ces gens-là du XVe siècle, en allant dans les archives, regardant, lisant. Et là, je veux dire, c'est devenu, bon, ça a été un travail, ça a été mon projet de thèse, en fait. C'était une thèse que je faisais sous la direction d'André Chastel. Et je pense que cette thèse, enfin, je m'en suis rendu compte aussi après coup, était presque ironique par rapport à Chastel, parce que la grande thèse, le grand livre de Chastel, comme sa thèse, il a fait beaucoup de grands livres, mais sa thèse, c'était art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique, la voie royale de l'histoire de l'art. Et moi, la thèse que j'imaginais, arrogant jeune historien, c'était art et société autour de Bernardin de Sienne. C'est évidemment aux antipodes exacts de mon maître de l'époque. Et puis il se trouve que, je sais plus en quelle année, franchement, cette thèse, donc au bord d'être écrite, toutes les fiches étaient faites, la bibliographie, tout était classé, je savais plus comment dire qu'à l'écrire. Et bon, eh bien cette thèse m'a été volée dans ma voiture à Florence. On m'a volé dans le coffre de ma voiture le sac en sky. C'est une jolie sky. Les gens de croire que c'était du cuir, donc c'était lourd, plein de papiers, deux trois vieux bouquins, etc. On l'a volé. Et quand je suis rentré, dans la voiture, j'ai constaté que j'avais plus cette thèse. Alors, j'ai mis des annonces pour dire que j'étais prêt à la retrouver, etc. Je suis allé à Sienne dire à Saint-Bernardin qu'il fallait qu'il fasse quelque chose quand même pour que je puisse retrouver ma thèse et finir mon travail sur lui. Mais Saint-Bernardin, je pense, avait vraiment un secret et ne tenait pas à ce que cette thèse soit faite. Et à ce moment-là, je suis passé, j'ai pas renoncé à Saint-Bernardin parce que je continue à publier dessus et c'est un thème absolument passionnant et je continue encore à réfléchir dessus. Mais de Saint-Bernardin, j'allais pas faire tout le travail, j'allais pas reprendre tous les chemins, etc., les photos, tout ça. Donc, je disais, je change de thèse et je change de directeur de thèse. C'était plus simple. Et c'est à ce moment-là, je suis passé, non pas du tout de Caribe dans Scylla, hein, mais de Chastel en marin. Et c'est pas du tout de Caribe dans Scylla, c'est à fait le contraire. Bon. Et en même temps, à ce moment-là, je suis passé de Saint-Bernardin, ça s'est élargi, dans le fond, à la question de l'art de la mémoire. Et l'art de la rhétorique, ça a été l'articulation, je crois, qui fait que maintenant je travaille depuis 20 ans sur les problèmes de mémoire et de rhétorique dans la peinture italienne de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, parce qu'en fait, j'avais découvert à Rome le livre de Francis Yates, l'art de la mémoire, je l'avais découvert dans sa version italienne, l'arte de la memoria, et c'est ce grand livre de Yates, fondateur sur les études aujourd'hui sur les arts de la mémoire. J'avais été complètement fasciné par ce livre de Francis Yates, et en même temps, je m'étais rendu compte que, dans le fond, la tablette de Saint-Bernardin, et ça, c'est venu assez vite, cette tablette avec YHS entourée des 12 rayons du soleil, plus de 6 rayons entre chaque rayon, et d'une inscription rectangulaire autour du rayon, était un objet de mémoire. C'était un objet de mémoire, une peinture de mémoire, une image de mémoire, Saint-Bernardin en parle comme d'une pictura, donc d'une peinture, destinée à, comment dire, mémoriser des données fondamentales du credo chrétien pour des analphabètes, parce que Saint-Bernardin leur expliquait le sens de la tablette, et c'était un objet de mémoire, une image de mémoire, que Saint-Bernardin parfois substituait au tableau de peinture sur les autels. Il y a eu des scandales comme ça. Saint-Bernardin a par exemple fait remplacer à Bologne une image de la Vierge à l'enfant sur l'autel majeur de Bologne par la tablette du nom de Jésus. Donc il était attaqué pour hérésie, déviation hébraïque, culte diabolique. On disait qu'après son passage, les paysans rendaient un culte au soleil, parce que Saint-Bernardin par ailleurs utilisait magiquement la tablette. Il faut imaginer, j'ai une petite anecdote, une prédication à Sienne en 1425. Saint-Bernardin prêche. Il y a des gens qui s'endorment quand même. Et à ce moment-là, il fait beau parce qu'on est à Sienne. Saint-Bernardin utilise sa tablette comme une sorte de miroir et faisant se refléter la lumière du soleil avec l'or, il va réveiller la personne qui s'endort. Miracle! Miracle! Bon. Donc il y avait une utilisation. Saint-Bernardin est un thème magnifique. Il aurait fallu faire un film, en fait, avec Saint-Bernardin. Mais donc, je me suis rendu compte que, on m'avait volé ma thèse sur Saint-Bernardin, bien, ce qui venait derrière, en fait, c'était la mémoire qui était au cœur même du travail de Saint-Bernardin, et donc ça a été, le passage vers ce qui m'a ensuite occupé pendant des années, qui m'occupe toujours, qui est les questions de mémoire dans l'art de la Renaissance.
Histoire de peinture par Daniel Arras. Réalisation Arthur Gerbeau, Claire Levasseur, Jean-Claude Loiseau.